La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Jacques Maritain, la passion des affaires temporelles, troisième épisode. Bonjour. Pour Aristote, on peut définir l'homme comme un animal politique. Cela veut dire que la politique précède l'homme. L'homme dans la cité précède l'individu qui naît. Il y a d'abord cette cité, ce biotope, on peut le réduire à la famille. Chez Hegel, c'est d'abord la famille, la société civile et puis l'État. Mais il y a une préséance. Maritain, en digne héritier d'Aristote, repense cette notion donc d'animal politique en l'appliquant dans la lettre sur l'indépendance datée de 1935 au maintien d'une double indépendance. L'indépendance donc de l'animal politique qui appartient à la cité et l'animal mystique qui appartient à la cité mystique. Le chrétien ne donne pas son âme au monde, écrit Maritain, mais il doit aller au monde. Il doit parler au monde. Il doit être dans le monde et au plus profond du monde. Je ne dis pas seulement pour rendre témoignage à Dieu et à la vie éternelle, je dis pour aussi faire en chrétien son métier d'homme dans le monde et pour, en dépit de la grande méprise dont je viens de parler, au sein même de cette méprise, faire avancer la vie temporelle du monde vers les rivages de Dieu. Et dans le monde et au plus profond du monde, il doit, contre le monde, maintenir intacte une double indépendance. Premièrement, celle de sa foi, de la parole de Dieu, des vertus dirigées vers la vie éternelle. Secondement, celle aussi de son activité temporelle de chrétien. L'indépendance de ce qu'en donnant au mot « politique » toute l'ampleur que lui donnait un Aristote, on peut appeler les vertus politiques chrétiennement dirigées vers la vie temporelle et le bien de l'humaine civilisation. En fait, ces préoccupations des années 30 à 40 sont une prolongation du mystère de l'incarnation. Prolongation donc de l'incarnation du Verbe dans le temps, dans l'histoire, dans la chair, qui oblige le chrétien à penser son inscription dans le monde sans en être, sans être du monde. Et la difficulté, c'est d'exercer sa liberté. Qu'en est-il de cette liberté du chrétien où dès qu'on est dans le monde, on est souvent tributaire d'un groupe, d'une pression, de groupe, de communauté, de société, une difficulté à faire entendre un avis. Comment le penser? Alors, Maritain pose déjà un jalon, être partout dans le monde, mais rester partout libre. C'est le premier jalon, on va voir plusieurs jalons pour l'exercice de cette liberté. Maritain commente 2 Timothée 2,9, le Verbe de Dieu n'est pas lié. Si le Verbe de Dieu n'est pas lié, le Verbe de Dieu est libre. Verbum Dei non est alligatum. La liberté du chrétien a sa racine dans la liberté de Dieu. C'est cette liberté de Dieu qu'en Jésus-Christ, les Juifs ne pouvaient pas supporter. Ecce homo vorax et potator vini. Voici l'homme glouton et amateur de vin. Cette liberté qu'on retrouve et qui est citée dans Matthieu chapitre 11, verset 19. Il mangeait chez les publicains, ce Jésus-Christ, il guérissait le jour du sabbat, il maudissait les riches, il évangélisait les pauvres, il marchait sur les eaux. Le chrétien doit être partout, commente Jacques Maritain, et rester partout libre. Pourquoi ne pas déclarer ici le conflit intérieur qui, à mon sens, fait obstacle à beaucoup d'efforts généreux pour l'expansion du royaume de Dieu? L'instinct social ou sociologique qui est du monde, l'instinct de la collectivité terrestre, prétend constituer les chrétiens en un monde clos. Je dis dans l'ordre temporel lui-même, dans l'ordre de la civilisation, en une forteresse bâtie de main d'homme, derrière les murailles de laquelle tous les bons seraient rassemblés, pour lutter de là contre tous les méchants qui l'assiègent. L'instinct spirituel qui est de Dieu demande aux chrétiens de se disperser dans le monde que Dieu a fait pour y porter témoignage et pour le vivifier. Alors, on se retrouve dans un écrit des années 30, on est en 1935 exactement, lettre sur l'indépendance, et Vatican II est passé depuis, et on peut dire qu'il y a une application plus grande de cette dispersion. On a eu tout un mouvement, les prêtres ouvriers, le père Voyaume, fondateur des Petits Frères de Foucault, qui vie contemplative et active, ferment dans la pâte, levain dans la pâte, dispersion. Maritain écrit ceci après la décennie des années 20 à 30, dans laquelle il a souffert d'un certain, on va dire, thomisme, qui l'héritait de l'époque qui est encore antérieure, qui est au tournant du XXe siècle, ce qu'on appelle l'époque du modernisme, où le thomisme a été érigé comme un rempart. Un rempart contre l'oisille, la façon d'interpréter, de faire de l'exégèse, etc., etc., ont proposé de manière un peu dure contre le modernisme, contre l'importance de l'histoire, eh bien, un thomisme bardé, qui permettait de se repérer, d'avoir des repères fixes, fermes. Voilà, je renvoie aux écrits de Étienne Fouilloux, Une église en quête de liberté, où Étienne Fouilloux montre de manière magistrale que Maritain est le troisième homme, la troisième voie entre modernisme et église, on peut dire rempardisée, à l'intérieur de ses remparts. Maritain ouvre, il ouvre plus qu'une brèche, une troisième voie, d'abord parce qu'il est laïque, il n'est pas clerc, il n'est pas théologien, il est philosophe, c'est, je pense, le premier philosophe thomiste. Gisson, bien sûr, est aussi un philosophe, mais on pourrait dire plutôt un historien thomiste, même s'il est bon en philosophie, remarquable. C'est Clio, sa maîtresse, c'est l'histoire. Voilà. Donc, Maritain, comme troisième voie, et une troisième voie qui a eu à se frayer un chemin parfois difficile. Deuxième note, dans ce respect de la liberté, cette maintenance de la liberté, cette pensée de la liberté. Entre les hommes qui professent avec une égale sincérité, la même foi, une profonde scission pratique peut parfois être constatée, à tel point que parfois les croyants politiques se sentent pratiquement moins près des croyants évangéliques que d'un croyant qui se réclame de l'ordre même totalitaire. Et que parfois les croyants évangéliques se sentent moins près des croyants politiques que d'un croyant qui se réclame de la tolérance et de la liberté. On a eu ça à propos des chrétiens communistes. Ça a été toute une question. Peut-on être chrétien et communiste? Alors je renvoie là aux réponses du père François Varillon, qui a accueilli des groupes de chrétiens communistes pour les faire réfléchir. Dans les siècles modernes, et spécialement en un temps comme le nôtre, poursuit Maritain, où les événements déconcertent tous les efforts de l'humaine raison, les dommages causés par la conception politique de la religion ont été d'autant plus grands qu'ils s'accompagnent chez beaucoup d'une connaissance très insuffisante des réalités politiques elles-mêmes. Le peuple chrétien s'est trouvé ainsi exposé à toutes sortes d'illusions, placé en face de formes opposées, mais pareillement funestes et pareillement dévastatrices, de la révolution antichrétienne impatiente de gagner l'empire du monde, il a cru qu'il devait choisir entre elles, au lieu de faire front à la fois contre elles. Un processus obscur de complaisance à l'égard des formes totalitaires, qu'une propagande menteuse s'appliquait à représenter comme les protections de l'ordre, a envahi dans bien des pays une partie des masses croyantes. La leçon des événements, des persécutions, des crimes contre l'humanité ne les éclaire que peu à peu et les laisse dans un état de confusion mentale et de paralysie devant un drame depuis longtemps commencé, où il s'agit de savoir si les hommes peuvent encore espérer dans le christianisme, Je ne dis pas seulement pour les conduire au ciel, je dis pour les faire vivre sur la terre d'une façon digne de l'esprit qui fait leur noblesse. La gravité d'un tel dommage ne peut pas être mesurée aussi bien pour le monde que pour la religion elle-même. Je vais prendre comme exemple d'illustration de cette page qui est extraite d'un autre ouvrage de Bergson à Thomas d'Aquin, 1944, le petit litige qu'il y a eu à propos de la revue Esprit, fondée par Mounier. Emmanuel Mounier fonde la revue Esprit, Maritain collabore, Mounier lui demande vraiment d'être dans le comité de rédaction, Maritain accepte, puis dès le premier numéro, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne plaît pas à Maritain, parce qu'il trouve qu'on ne s'affiche pas assez comme chrétien, et qu'on laisse croire aux communistes qu'on œuvre ensemble, dans un même esprit, pour une justice sociale, etc. Donc il y a une première lettre que Maritain écrit à Mounier, puis la mésentente s'installe et finalement c'est un divorce, une séparation. Maritain dit qu'il faut être clair, qu'on ne peut pas mentir et qu'on risque de se retrouver avec un quiproquo, une confusion qui va nuire aux chrétiens. Et donc il quitte la revue Esprit. Mounier continuera son travail. Plusieurs sensibilités dans l'Église ont toujours été fécondes, mais la ligne de Maritain, c'est toujours de dire tout de suite. Quelles sont les choses? Donc, levain dans la pâte, mais un levain identifié. Je crois fermement que la conception évangélique de la religion prévaudra à la fin sur la conception politique de la religion et que plus que jamais, les chrétiens s'engageront dans les travaux et les douleurs du monde, mais pour y porter la flamme et la vie d'une foi vraiment libre du monde. Je crois que le spirituel sera délivré des diverses sortes d'inféodations à des structures temporelles corrompues dont il souffre aujourd'hui. Mais si nous ne voulons pas que cette délivrance ait lieu sur les ruines du monde, il faut que nous l'accomplissions d'abord en nous-mêmes et que nous retrouvions le sens de ce grand renversement des valeurs, de cette révolution spirituelle dont le Christ a été l'auteur et que saint Thomas d'Aquin met en lumière quand il établit que ce qui est principal en la loi nouvelle et ce en quoi consiste toute sa vertu est la grâce du Saint-Esprit opérant dans les âmes par la foi et la charité. Si une nouvelle chrétienté doit surgir dans l'histoire, ce ne sera pas par le moyen de la police et des gendarmes, des soi-disant États chrétiens, dont l'histoire moderne a vu la faillite et dont l'Autriche de Joseph II et la Prusse de Frédéric Guillaume II on fournit jadis un trop mémorable exemple, ce sera par la vertu de la loi nouvelle, par la puissance de l'Évangile régénérant du dedans les structures temporelles du monde. La boussole de la liberté, vous l'avez comprise, c'est la vie intérieure. C'est ça qui fait que l'homme pourra discerner. Être libre, c'est discerner. C'est faire cet acte de choix qui est le fruit d'une volonté éclairée. Éclairée par la grâce et donc cette vie intense d'horizon, du cœur, des sacrements, bien évidemment. N'oubliez pas, Maritain, elle est tous les jours à la messe, même en tant qu'ambassadeur à Rome, où les journées sont très lourdes, très chargées. Alors, reprenons le fil et voyons une autre note. Ici, je vais passer à un écrit, Question de conscience, 1938, qui est un peu, on va dire, pessimiste sur le monde. C'est-à-dire que Maritain dénonce dans le monde l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le contraire de la liberté. Être pris dans une idole, c'est pris, on va dire, dans une forme d'addiction inconsciente, préconsciente, mais qui annihile complètement la liberté de l'homme. Et pour Maritain, le monde est pris jusqu'au cou dans l'idole. C'est le conflit, on va dire, de toute la Bible. Il y a toujours ce trépied. Dieu, le monde, Satan. Et l'homme est justement la quatrième donnée. À qui appartient-il? Voilà, il faut arracher le monde à Satan. Il faut arracher le monde à l'idole. Alors l'idole, elle est déclinée dans le veau d'or, bien sûr, mais elle finit en idole intérieure. Qu'est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on s'aime soi, etc.? On peut la décliner de toutes les manières. On pourrait résumer la Bible, la lutte contre les idoles. Le monde que nous avons sous les yeux, écrit Maritain en 38, nous offre le spectacle d'une immense liquidation. Nous y voyons porter à un comble d'exaltation des forces historiques contraires qui révèlent, sous des formes opposées, un pareil mépris de l'Évangile et dont l'Église a condamné ensemble les erreurs les plus typiques. Ce qui a préparé nos malheurs, c'est d'une part le matérialisme pratique d'un monde qui a trahi sa mission de faire passer dans l'ordre temporel une réfraction de cette justice qui nous a été dit de toujours chercher d'abord, qui a exploité pour l'accumulation des richesses les forces vives de l'homme, qui a accepté la misère qui s'en est nourrie et qui, lorsqu'il arrive par sa logique interne au bord de la catastrophe, dévoile son visage ivre de violence et ne sait plus, pour se sauver, que sacrifier la substance humaine à l'adoration de l'État ou du sang et de la race. Et c'est, d'autre part, une idolâtrie de l'homme et du social qui a commencé par toutes les illusions du rationalisme et de l'individualisme et du culte de la nature humaine, soi-disant bonne par essence à la façon de Dieu, et qui aboutit en définitive à supprimer ce qu'il y a de plus humain dans l'homme et dans le social, les valeurs essentielles de la personne, à rejeter et détester comme ennemi du bonheur de l'homme tout ce qui porte un reflet du visage de Dieu et un espoir de plus que la terre, et finalement à désorganiser la substance humaine jusque dans ses fibres les plus intimes pour qu'elle devienne souple comme un gant à la volonté de ses maîtres, que ceux-ci se nomment le parti ou le père des peuples ou les démons de notre malheureux cœur. Question de conscience. C'est extraordinaire ce texte. On est en 38. Et quand vous voyez cette phrase, détester comme ennemi du bonheur de l'homme tout ce qui porte un reflet du visage de Dieu et un espoir de plus que la terre, eh bien ça conduit à désorganiser la substance humaine. Jusque dans ses fils les plus intimes, elles deviennent souples comme un gant pour la volonté, etc. Et je pense que là, on a un argument fort pour lutter contre le suicide assisté, l'euthanasie, etc. C'est tout simplement que l'euthanasie et le suicide assisté, malgré toutes les précautions qu'on peut nous dire, peut devenir un moyen économique de précipiter la succession d'un héritage. Après tout, la grand-mère, là, elle ne peut plus rien dire, elle ne peut plus rien faire, le grand-père non plus, il souffre. Qu'est-ce que ça fait? 2 ans de plus, 1 mois de moins, etc. Mais on en a besoin, là, pour un petit apport, pour notre immeuble qu'on voudrait acheter, pour un appartement, pour je ne sais pas quoi, la voiture. Et c'est un argument qui n'est pas une utopie. Il est très concret. C'est-à-dire qu'on peut faire passer un argument économique contre un argument humain. Parce que, comme l'écrit Maritain, on a détesté comme ennemi du bonheur de l'homme tout ce qui porte un reflet du visage de Dieu. Et l'homme comme visage de Dieu, comme image de Dieu et ressemblance, exit, c'est simplement une valeur marchande, économique. Et donc on peut presser le temps, anticiper l'heure, parce qu'il y a une raison économique qui l'exige. Je pense que là, on peut faire réfléchir nos contemporains là-dessus. La dérive, elle est à la porte. Elle n'est pas à exclure. pas du tout. Donc, petite parenthèse pour montrer l'actualité de Maritain dans ces années 20, 30 et 30, 40. Et j'aimerais terminer notre petite série de trois épisodes sur l'humiliation de l'esprit. Alors, l'humiliation de l'esprit, c'est toujours dans Question de conscience, qui est un recueil un petit peu, je dirais pas pessimiste, mais qui fait un état des lieux peu reluisant. Jamais la menace d'une oppression universelle de l'esprit n'a été plus grande qu'en les années présentes. Jamais les hommes n'ont risqué davantage de perdre le sens de la vérité. Et si cette liberté est perdue, que deviennent les autres ? Où que nous tournions les yeux, que ce soit vers les camps de concentration allemands, où souffrent patients tant de prêtres catholiques et de pasteurs protestants, que ce soit vers l'Autriche, où le droit des gens vient d'être si parfaitement foulé aux pieds, n'oubliez pas, c'est l'Anschluss, 1938, que ce soit vers Moscou, dont les récents procès nous révèlent ce que l'homme peut devenir quand il n'y a plus de vérité pour lui, sinon le décret de la conscience collective du parti est le seul absolu du but à atteindre par n'importe quel moyen, que ce soit vers la malheureuse Espagne, qui nous fait voir quels bienfaits spirituels et temporels on peut attendre de la guerre civile, et où nous pleurerons peut-être demain une nouvelle rupture d'équilibre de la structure politique de l'Europe, que ce soit vers la Chine, où le massacre de multitudes innocentes nous montre ce qu'il faut entendre aujourd'hui par défense de la civilisation. Partout, la violence est la menace de nouvelles violences. Nous savons que les dangers qui pèsent sur le monde font un devoir aux hommes de replier leurs énergies sur les nécessités du moment. Mais nous savons aussi que contre les sources profondes de ces dangers et contre la menace universelle dont la personne et l'esprit sont l'objet, la liberté chrétienne est une des dernières espérances de l'être humaine, de l'être humain, pardon. C'est cette liberté qu'en 1683, Jean Sobieski avait sauvé des Turcs aux portes de Vienne. Aujourd'hui, c'est la croix gammée qui est entrée dans Vienne. La chute totale de l'Autriche, à la valeur d'un signe historique de première grandeur. Si la liberté catholique perd ses derniers bastions et remparts d'État, c'est peut-être que le temps arrive pour elle de ne plus demander sa force qu'aux moyens pauvres de l'amour et de la charité. À considérer l'affreux panorama offert actuellement par les nations, on est contraint de constater ceci. L'esprit est humilié jusqu'au centre de la terre. À vrai dire, il est puni de ses propres manquements. Ce qui aujourd'hui prend férocement sa revanche contre lui, ce sont des forces de vitalité animale, mais élémentaires, qui le châtie d'avoir trop longtemps manqué à ses propres devoirs et aux réalités humaines. Il n'est pas d'autre ressource pour l'esprit que de descendre avec l'intelligence de l'amour au plus profond de ses réalités élémentaires. C'est ainsi que germera peut-être, plus tard, une nouvelle chrétienté. Nous ne renoncerons jamais à l'espoir d'une nouvelle chrétienté, d'un nouvel ordre temporel d'inspiration chrétienne. Ces pages sont absolument superbes en une année de jubilé fondée sur l'espérance. Parce que si la modalité de la chrétienté, on parle d'un état chrétien comme l'Autriche, mis à bas par l'Anschluss, la croix hitlérienne, flotte à Vienne, flotte sur Vienne. Eh bien, cette modalité n'est plus celle-là, Maritain ne désespère pas. Il reprend l'évangile et dit il faut chercher des moyens plus pauvres, donc plus profonds, donc plus intérieurs. Et c'est à ce titre-là, à ce compte-là, qu'on pourra parler d'une nouvelle chrétienté. Voyez, cette espérance pratique, je crois que les deux mots vont bien ensemble, c'est la passion des affaires temporelles, fait qu'on a toujours un commentaire, un rebond, un commentaire philosophique, une audace, écrire en 1938, voyez, il y a des camps de concentration, c'est le premier intellectuel au monde qui publiera un texte contre l'antisémitisme, Impossible antisémitisme, en 1938. Maritain n'a peur de rien parce qu'il est un homme libre, parce que c'est un homme de prière, de sacrement, de vie chrétienne, de vie théologale.